France Culture.
Talmudique. On le sait, écrit Walter Binyamin, la Torah interdit de prédire l'avenir. Par contre, la Torah et la prière enseignent la remémoration, c'est-à-dire un saut dans le passé qui possède le pouvoir magique d'ouverture d'une chambre jusqu'ici verrouillée, d'un événement, d'un texte, d'une vie jusqu'ici oubliée. La remémoration est une ouverture du passé qui signifie que ce qu'on appelle les jugements de l'histoire n'ont rien de définitif ni d'immuable. L'avenir peut rouvrir les dossiers historiques fermés, réhabiliter des victimes calomniées, réactualiser des espérances et des aspirations vaincues, redécouvrir des combats oubliés ou jugés utopiques, anachroniques et à contre-courant du progrès. Par la remémoration, l'ouverture du passé et celle de l'avenir sont étroitement associées. Et en ce sens, l'exposition que le musée d'art et d'histoire du judaïsme consacre à la danseuse Paola Padani est exemplaire grâce à une foisonnante donation de sa fille Gabrielle Gottlieb de Gail. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme fait sortir de l'oubli et met en lumière cet artiste exceptionnel qui est l'une des figures emblématiques et pionnières de la danse moderne. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir la commissaire de l'exposition, Laure Guilbert, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous découvert Paola Padani, cette artiste importante et pourtant oubliée? Comment vous est venue l'idée de lui consacrer une exposition?
J'ai eu la chance de rencontrer Paola Padani dans les années 90, grâce à une autre exilée de la danse moderne, Julia Marcus, qui a été également une élève de Marie Wigman, que je connaissais très bien, que j'allais voir régulièrement, qui avait, comme Paola, des archives passionnantes chez elle, et qui m'a conseillé de rencontrer Paola et son mari, Michael Gottlieb Arab, peintre. Je suis donc allée les voir dans leur atelier du 14e arrondissement, un lieu extrêmement charmant, rempli des tableaux de Aram et puis aussi de tous les papiers d'exil de ce couple d'artistes exilés. Et puis nous avons noué la conversation, je les ai rencontrés régulièrement autour d'un café, nous feuilletons les albums photos des tournées de Paola Padani dans les camps de personnes déplacées de l'après-guerre en Allemagne. Et tout en échangeant sur les projets artistiques de Paola, sa jeunesse à l'école Wigman, nous parlions aussi de ses photos, des albums, de cette presse internationale relatant ses tournées dans les années d'après-guerre. C'était à la fois extrêmement émouvant et sympathique d'être chez eux, parce que c'est vraiment l'histoire d'un couple cosmopolite de la diaspora. Et puis, très vite, j'ai bien sûr pris conscience de la valeur de ces documents, tout en sachant que c'était les objets de la famille, les objets du quotidien qui étaient là, dans l'appartement, dans cet atelier, atelier-appartement. Et quand Paola et son mari sont décédés, j'ai bien sûr gardé le lien avec leur fille Gabrielle de Gail, que j'ai continué à rencontrer, et nous avons progressivement émis l'idée qu'il fallait quand même un petit peu classer ces documents, regarder ce qu'il y avait dedans. Gabrielle ne pouvait pas le faire seule puisque il y avait beaucoup d'émotions derrière ça, donc nous l'avons fait ensemble. Et de fil en aiguille, l'idée a émergé de peut-être faire une donation, de trouver en tout cas un lieu patrimonial pour accueillir cette collection. Et il me semblait que le MAGE était le lieu absolument idéal, puisque le MAGE s'occupe aussi de ces petites collections oubliées de la mémoire, qui sont dans les familles et qui pourtant rayonnent d'une expérience de la traversée du XXe siècle, rayonnent de savoir sur l'histoire juive, sur l'histoire en l'occurrence là de la modernité juive, et que donc ces archives sont vraiment comme des palimpsestes qui racontent l'histoire de leurs porteurs, l'histoire de ces archives elles-mêmes, de leur traversée dans le monde, etc. Et j'ai donc simplement contacté le MAGE qui très vite nous a demandé, à Gabrielle et moi, de venir pour une première réunion. Et l'idée était initialement simplement de donner cette collection. Et Pascal Samuel, qui nous a accueillis dans un premier rendez-vous, a bien sûr tout de suite compris qu'il y avait là de quoi faire une petite exposition dans les salles du bas du musée, parce qu'il y avait non seulement des documents d'histoire sur l'histoire familiale, mais aussi qui se relie bien évidemment à l'histoire plus large de l'histoire juive, judéo-allemande, judéo-polonaise, l'histoire également de la Palestine, de la danse dans la Palestine mandataire, mais aussi des photos extraordinaires du parcours d'une artiste, d'une femme artiste qui a trouvé dans la danse le moyen d'avancer dans un parcours de migration.
Oui, alors il faut dire que ce sont vraiment des photos absolument magnifiques, et il y a plus de 250 documents. Pourquoi autant de photos, Laure Guilbert ?
Il est vrai qu'elle a été photographiée tout au long de sa carrière de scène. D'une part parce qu'elle était une très belle danseuse, une très belle femme, et une danseuse qui éclatait de vie dans sa danse, qui portait une énergie et en même temps qui avait une grande rigueur dans sa danse. Tout était très conscient, très intériorisé, très travaillé. Elle rayonnait d'une réelle lumière qui a bien évidemment intéressé les photographes, tout d'abord dans la Palestine mandataire où elle a passé 10 ans, et ensuite encore en France et aux États-Unis et en Europe quand elle a fait ses tournées après la guerre. La modernité artistique de la danse se reliait bien évidemment depuis le début du XXe siècle à la modernité picturale, à l'émergence de la photographie, au film. Donc les artistes, qu'il s'agisse de peintres, elle a été également un peu peinte par quelques artistes, mais les photographes se sont énormément intéressée à la danse depuis l'émergence de la modernité chorégraphique dans les années 20, donc dans l'Allemagne de Weimar, et bien sûr en Palestine aussi, en Palestine mandataire, puisque beaucoup de photographes exilés qui ont trouvé refuge en Palestine mandataire étaient de la même génération que Paula et se sont intéressés à tout ce qui se passait sur place, dont la danse.
Alors commençons par le commencement, selon la formule consacrée. Quand et où est né Paola Padani, en précisant que Padani est un nom d'artiste, qu'il est aussi intéressant de commenter, Laure Guilbert.
Paula s'appelait à sa naissance Perla Padzanowski, donc du nom polonais de son père. Elle a transformé son nom, je suppose, durant son parcours d'exil dans les années 30. Je suppose peut-être durant son passage en Italie. Et c'est devenu son nom d'artiste et puis aussi son nom de femme avant son mariage, mais qu'elle a continué à utiliser toute sa vie. Il y a aussi un jeu de mots avec le nom de son mari, puisque lui aussi, exilé également, a bien entendu changé son nom. Il s'appelait Michael Gottlieb, Salomon Gottlieb. Il est devenu Michael Gottlieb, puis Michael Aram de son nom d'artiste. Et il y a un lien avec une région du Proche-Orient.
J'ai l'impression, si vous voulez, que Michael Gottlieb a changé son nom après avoir rencontré Paola Padani, parce que Padan est le nom d'une des villes dans la Bible de laquelle Abraham est originaire. Et quand, dans le texte biblique, Dieu lui dit, c'est la première parole qu'il lui adressait, « Lech lecha, va pour toi, va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai », il est à ce moment-là dans une ville qui s'appelle Haran, mais que la Bible appelle aussi Padan Aram. Et donc, c'est vraiment l'origine, le point d'origine de tout exilé qui part de chez soi, qui part de Padan. Et donc, peut-être qu'elle s'est appelée Padani avec cette conscience de ce point d'origine. Et peut-être que son mari, quand il l'a rencontré, s'est rappelé lui aussi que ce mot Padan est en fait un mot double dans la Bible, Padan Aram, et peut-être qu'il a choisi à ce moment-là le nom de Aram pour son nom d'artiste à lui aussi. C'est ce que j'ai imaginé, mais je ne suis pas spécialiste de cette...
Alors non, je pense que vous avez raison, et je me souviens que Gabriel de Gayle m'avait mentionné ça également, et je me souviens aussi avoir retrouvé un tout petit jeu, un espèce d'acronyme que Michael Gottlieb avait fait autour de ce nom d'artiste Aram, qui reprenait un certain nombre de ces informations. Vous avez tout à fait raison. Donc, elle est née en 1913 à Hambourg, d'une famille de conditions plutôt ouvrières, famille de Polonais ayant migré de Vouch à Hambourg pour fuir le contexte antisémite, pour fuir l'appauvrissement économique. Elle vient pourtant d'une famille qui, au départ, était relativement aisée, puisque cette famille, au long cours, administrait un domaine dans la petite bourgade de Pasina, en Pologne. Elle est donc juive polonaise, naissant à Hambourg. Hambourg étant une ville portuaire de départ des Juifs de l'Est vers le continent américain, les parents souhaitent partir également. Ils ne peuvent pas à cause de la Première Guerre mondiale. Ils restent à Hambourg. D'autres enfants naissent, 6 enfants. Et puis, quand bien même cette famille est de conditions modestes, on ne sait pas quel est le métier du père. Il y a donc 4 filles puis 2 fils. Il y a dans la famille une transmission artistique qui vient du père, qui joue merveilleusement bien de la clarinette. Cette transmission musicale va toucher d'ailleurs la famille plus large au long cours jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Hambourg est une ville moderne. À une époque où le sport, les loisirs commencent à se développer, ce fameux amour de la nature commence à émerger. Donc il y a beaucoup d'écoles de gymnastique et de danse dans cette ville. Et Paula, comme ses sœurs d'ailleurs, va très jeune commencer à se former de façon amateur à la rythmique, à la gymnastique plastique, à différentes choses. Voilà, il y a plein d'appellations à l'époque. Et puis, en fait, elle et sa sœur aînée, Fanny, vont toutes les deux aller jusqu'à une formation professionnelle. Donc, Paula se forme à la danse et la danse devient, pour elle, une réelle colonne vertébrale, mais plus que ça, une sève de vie qui va l'aider à se construire puisque, hélas, les deux parents décèdent très tôt. Au début des années 20, l'un puis l'autre à 4 ans d'écart. Et donc, les 6 enfants se retrouvent orphelins. Et Paula a 8 ans quand sa mère décède, 12 ans quand son père décède. Donc, elle est confiée dans un orphelinat de jeunes filles juives, l'orphelinat Paulinenstift. C'est un orphelinat qui leur propose une éducation extrêmement progressiste, extrêmement ouverte, où l'idée est vraiment de former des jeunes filles capables de penser par elles-mêmes, de prendre des décisions dans un esprit d'entraide, de solidarité intergénérationnelle. Donc quelque chose de très positif. Et bien entendu, le fait de continuer la musique et la danse est une évidence et c'est ce qu'elle fait. Et puis, en 1930, elle entre à l'école Wigmann, à la filiale Wigmann de Hambourg, avant, 2 ans plus tard, de partir à l'école mère de Wigmann à Dresde, où là, elle commence un cursus professionnel.
Alors, qui est Marie Wigmann ?
Marie Wigmann est l'une des grandes artistes de la modernité chorégraphique de l'Allemagne de Weimar. Se développe, durant les années 20, un immense courant de danse moderne qui essaime partout en Europe centrale, avec différentes capitales culturelles de la danse moderne, si je puis dire. Dresde en étant une, puisqu'il y a l'école Wigmann, l'école Paluca, mais il y a aussi Vienne, qui est un lieu fantastique de foisonnement de la culture chorégraphique, avec notamment une artiste comme Gertrud Bodenwieser ou bien Gertrud Krauss, qui partira elle aussi en Palestine dans les années 30. Varsovie, bien évidemment, est un lieu important. Et Wigmann représente l'un des courants de la danse moderne, il y en a plusieurs, qui s'est construit dès les années 10, mais très majoritairement dans les années 20, dans une rupture avec les académismes du ballet, et puis aussi dans une réflexion critique sur les excès de la modernité technique, rationnelle et industrielle, où l'idée est de redonner au corps une place centrale dans la vie de la société. Et le projet est, d'une certaine manière, par la danse, de réenchanter le monde, c'est-à-dire de redonner au corps sensible une place. Et Wigmann est représentative d'un de ces courants de la danse moderne qui met en avant l'expressivité du corps, qui est proche de l'expressionnisme. D'ailleurs, les peintres expressionnistes viennent à l'école Wigmann faire des croquis dans les studios. Et l'idée est de travailler sur une approche sensorielle du corps, de chercher par l'improvisation et la composition ensuite une nouvelle manière de se mouvoir. Donc, en partant d'un corps qui n'est pas un corps quotidien, un corps très travaillé, mais où on s'appuie d'abord sur la sensorialité, sur les affects, sur la subjectivité. Et on va, à travers la subjectivité, rechercher une autre manière de se mouvoir, de construire le mouvement. Comme les expressionnistes, finalement, de laisser s'exprimer l'expressivité, la force des couleurs.
Alors c'est très bien, ça semble magnifique. Mais cette dame, Marie Wigman, va s'engager très vite dans le nazisme. Et la question est de savoir quel est le lien entre cette façon de penser la danse et l'idéologie nazie.
Alors, avant de parler peut-être de ce point extrêmement noir, il faut juste revenir un tout petit peu en arrière et dire que la danse moderne a été, dans l'Allemagne de Weimar, un espace de possibilités réelles pour la symbiose judéo-allemande. C'est-à-dire que les danseuses venaient se former aux écoles de la modernité en Allemagne, venant de partout en Europe, dont beaucoup d'élèves juives, qui trouvaient dans la culture assimilée judéo-allemande un espace, bien sûr, pour se développer, pour travailler justement sur l'intériorité, sur leur subjectivité, et c'était un espace d'émancipation en tant que femme également, puisqu'elle trouvait dans la danse la possibilité de se former à de nouveaux métiers. Et la dernière compagnie Wigman avant le nazisme était une compagnie composée pour moitié de danseuses juives qui sont parties aux États-Unis en 32-33 faire une tournée qui a eu un certain succès. Donc il y a cet espace possible, c'est-à-dire que les écoles de danse sont des lieux de Bildung au sens de la conception de la culture allemande. Les jeunes artistes juives y avaient leur place. Simplement, voilà ce qui se passe en 33. Est une coupure radicale, c'est-à-dire que Wigman rentre de sa tournée américaine en 33, les danseuses juives de sa compagnie quittent la compagnie parce que la compagnie est dissoute pour des raisons économiques, je précise, mais très vite, Wigman découvrant la situation en 33 et ayant déjà, depuis le tournant des années 30, un certain nombre d'actes montrant clairement qu'elle est plutôt du côté des nationalistes qui refusent le traité de Versailles. On peut le repérer de différentes manières dans certains de ses spectacles. En 33, il est sans hésitation, mais en réfléchissant, elle prend le temps aussi de réfléchir, elle organise un workshop dans son école pour réfléchir à la suite, à la manière dont l'école va se positionner, etc. Elle prend elle-même des décisions, elle pose des actes qui sont que, par exemple, au moment du boycott de début avril 33, elle renvoie de son école le responsable pédagogique de son école de Dresde, Fred Kuhlmann, qui est juif. Une élève juive part également. Sa collègue Paluka, qui a une école proche, fait de la même chose avec Till Rössler, sa responsable pédagogique, qui partira en Palestine. Donc il y a un certain nombre d'actes qui sont posés dans le contexte des violences du printemps 33. Mais ce qu'il faut absolument noter, c'est que, à ce moment-là, aucune loi encore n'oblige quiconque en Allemagne à renvoyer ses collègues, ses élèves juives. Et très vite, l'école Wigman et l'école Paluka se réunissent, forment tout un réseau et décident de s'engager dans les organismes de mise au pas du régime, donc le Front de combat pour la culture, la Ligue des enseignants nationaux socialistes. Wigman prend des responsabilités régionales dans ce cadre pendant quelques mois. Et puis, dans l'école, très vite, elle va faire évoluer sa pédagogie d'enseignement, de formation, pour l'adapter aussi au système nazi. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir progressivement des cours d'histoire de l'État, des cours d'histoire de la race qui vont être introduits.
אם הסתיו חזרו הציפורים מעבר למדבר, מעבר להרים, והוא ראה אותה על הענף. והיא כולת נוצה, והיא דקת כנף. זה היה עם בו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים. כמו בסתיו הציפורים ובנה לקן מהסבים, והיליק את הזרעים מתוך הרגבים, והוא שרק לשיר של אהבה. והיא נתנה לו שי, נוצא מתוך זנבה.
En 1936, elle rejoint clandestinement la Palestine mandataire, où elle ouvre à Tel Aviv une école de danse et crée des chorégraphies inspirées par l'exil et la dimension biblique des paysages du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'une danse, Laure Guilbert, inspirée par l'exil et la dimension biblique des paysages du Moyen-Orient ? Et cette période dite palestinienne, il faut sans doute préciser le sens de cette expression, fut pour elle particulièrement importante, riche et féconde, et on a l'impression, et c'est cela qui m'intéresse particulièrement, que son travail est une réponse au nazisme et une forme de réparation, un tikkun, dirait-on en hébreu.
Paula Padani quitte l'école Wigman parce qu'elle a terminé sa formation. Elle veut devenir danseuse de scène, chorégraphe et enseignante. Elle quitte l'école sans son diplôme officiel parce qu'elle est juive, donc l'école lui refuse son diplôme en 1934, avant même les lois Nuremberg. Donc Paula Padani, qui était une juive polonaise étrangère en Allemagne, mais qui a reçu une éducation de la culture juive assimilée allemande, qui était quand même une outsider en Allemagne, devient là, entre dans le chemin des exilés parias. Elle décide de quitter l'Allemagne, je pense, en 1935. Ses frères et sœurs sont déjà partis, elle est la dernière. Elle part en exil et elle construit sa première expérience professionnelle en enseignant à Florence et à Athènes pour construire une première expérience. Cette période de l'exil est sans documents. La famille sait peu de choses sur tout cela. Elle passe quand même un an chez sa sœur à Athènes, qui l'accueille et qui lui permet de réfléchir à la suite. Elle décide de partir en Palestine, où se trouve une autre de ses sœurs, où se trouve aussi un de ses grands-pères, son grand-père maternel. Elle arrive clandestinement en Palestine. On ne sait pas comment elle a financé toutes ces traversées, certainement en partie par le travail qu'elle a fait, mais c'était certainement pas suffisant. Elle arrive clandestinement à la frontière de Metula, grâce à un professeur de français qui l'a fait passer pour sa nourrice. Elle passe quelque temps chez sa sœur Clara, qui est au kibbutz Givat Brenner. Et puis là, elle doit décider de ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle fait partie de ces très nombreux yekes d'Europe centrale qui arrivent en Palestine sans nécessairement être sionistes, mais qui arrivent là parce qu'ils cherchent un refuge. Et pour lesquels le changement de monde, la rupture avec toutes les appartenances familiales, culturelles, la perte, la dispersion des familles est très difficile. Pour certains, cette période est difficile. Pour Paula, c'est bien sûr difficile, mais elle est très jeune. Elle a l'amour inconditionnel de son art. Elle vient avec un bagage professionnel, un bagage du corps très solide, puisqu'elle a été très bien formée. Elle ouvre une école de danse rapidement, puisque c'est aussi une façon d'avoir un socle économique. Et elle est aussi accueillie dans la compagnie de Gertrude Kraus, viennoise exilée, qui lui donne la possibilité de commencer ses premières créations de solo. Et donc voilà comment elle commence, arrivant en 1936 en Palestine, dans un contexte quand même très tendu, parce que c'est de nouveau un contexte de tension entre population juive et arabe, et ce gouvernement britannique qui est dans une espèce de entre-deux-chaises en permanence. Et donc, Paula, très vite, commence ce parcours créatif qui est en elle, qui a mûri en elle aussi durant le temps de l'exil. Et elle va créer durant 10 ans, les 10 ans qu'elle passe en Palestine mandataire, plus de 30 solos qui tous témoignent de sa manière de se positionner dans ce monde nouveau de la Palestine mandataire, mais aussi dans ce monde par rapport à cette Europe quittée. Et elle est fascinée par les paysages de l'Orient qui lui inspirent un certain nombre de solos. Elle est absolument passionnée par toutes les cultures locales, musicales et chorégraphiques du monde oriental, séfarade, arabe, yéménite. Elle s'inspire de ces folklores locaux Et elle s'inspire également aussi de sa propre culture européenne, qu'elle ne renie aucunement, contrairement à un certain nombre de juifs originaires d'Europe qui, pour justement construire une nouvelle culture, ont une approche parfois très critique de l'Europe quittée, et on comprend pourquoi. Paula Padani se positionne vraiment dans un rapport d'hybridation, j'ai envie de dire, de synthèse, de circulation. Elle circule dans toutes ces cultures. C'est cette nouvelle culture qu'elle découvre et qu'elle incorpore profondément, et puis ce d'où elle vient. Et donc ça donne lieu à des solos, uniquement des solos, parce que je pense qu'elle n'a pas les moyens de construire une compagnie, mais qui sont d'une grande puissance expressive. Elle est en recherche d'une modernité qui tend vers l'abstraction. Elle ne s'oriente pas vers le souhait de construire une nouvelle tradition folklorique juive, comme c'est le cas par exemple des pratiques folkloriques. Elle veut vraiment construire un art de la scène. Elle veut participer à la nouvelle modernité de Tel Aviv sur la scène. Et elle fait partie de cette première génération d'artistes de la scène.
On a l'impression que son travail est une réponse au nazisme et une forme de réparation.
Je pourrais pas répondre de cette manière aussi affirmativement, parce que quand elle quitte l'Allemagne, elle quitte l'école Wigman. Elle est en colère dans la mesure où elle ne comprend pas pourquoi Wigman, son maître, donc sa mère artistique, réellement, ne quitte pas aussi l'Allemagne. Et ensuite, elle n'a plus jamais de contact avec elle. Après-guerre, les forces d'occupation en Allemagne lui proposent de rencontrer son maître, mais elle refuse parce qu'elle a un doute, justement. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, sa danse est clairement une danse qui affirme la vie, qui affirme la joie. Je la rangerai du côté du courant développé par Spinoza, qui affirme que l'âme, le corps et l'esprit sont unis, que le sensible est une dimension excessivement importante de la vie, et c'est cette vie-là qu'elle porte. Donc elle affirme son opposition au nazisme par l'affirmation de la vie. Et dans ce sens-là, elle affirme sa vocation d'artiste, c'est-à-dire qu'elle choisit de se construire comme artiste pour inventer sa vie, elle dont la vie a été d'abord profondément endeuillée par la perte de ses parents et puis doublement détruite par l'impossibilité de rester en Allemagne et de construire une carrière. Donc sa réponse, c'est être une artiste créative. Ça ne veut pas dire qu'elle a une volonté de lutter contre, elle veut traverser en affirmant la beauté de la vie, la joie du mouvement.
Dans l'exposition, on voit, dans cette période dite palestinienne mandataire, on voit des costumes un petit peu folkloriques, comme il y a une robe d'ailleurs qui est présentée dans l'exposition, comme la tunique bariolée de Joseph. Est-ce que cette dimension biblique est aussi une dimension des textes de la Bible et pas simplement des paysages, Laure Guilbert?
Bien sûr qu'elle est profondément inspirée par l'histoire au temps long de cette région du monde. Elle n'est pas pratiquante initialement, même si elle vient d'une famille pratiquante, mais arrivant en Palestine, elle redécouvre l'immensité de l'héritage culturel dont elle s'empare, et elle aime beaucoup les histoires de la Bible dont elle s'empare pour aussi avoir une approche peut-être un peu philosophique à sa façon, comment elle interprète ces choses, comment elle s'empare de ces histoires. Et par exemple, elle crée un solo qui s'appelle Joseph adolescent, avec ce costume dessiné par son mari d'ailleurs, longue rayure colorée, très très vive, très orientale. Elle aime beaucoup les costumes, les étoffes, ça c'est un héritage de l'école Wigman aussi. Elle travaille avec la légèreté des étoffes. Et cette histoire de Joseph, c'est aussi, je pense que dans chacun de ses solos, qu'il s'agisse de, enfin notamment sur ses solos qui reprennent des personnages de théâtre ou des personnages de la Bible, elle se présente aussi comme une actrice de théâtrale d'une certaine manière, et il y a une dimension sans doute personnelle à creuser bien sûr, mais l'histoire de Joseph, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à se sauver grâce à un songe. Donc voilà, Paula est également quelqu'un qui a su se sauver.
Et qui a des rêves,
Paula a des rêves, c'est une évidence. Elle a un rapport à l'intériorité qui est très très profond, et chacun de ses solos est réellement ciselé. Sa façon de se mouvoir est extrêmement fine. Elle a un travail sur les bras qui est très très abouti, qui est au micro détail près. Et en même temps, elle a une vélocité du travail, dans le travail des jambes, qui est assez impressionnante. Et puis aussi, une expressivité du regard, du visage souriant, qui est assez rare, parce qu'il est difficile de sourire en dansant. Et elle sourit tout le temps, ce qui est assez exceptionnel. Elle est vraiment dans la recherche d'incarner ces personnages qu'elle danse non pas comme des personnages de théâtre, mais qu'elle veut déployer dans la danse, dans une danse abstraite. Et Paula Padani, étant formée par Wigman, ne s'est pas intéressée à la notation écrite du mouvement. Elle est beaucoup plus dans une approche de la création où on improvise. Voilà. Donc l'idée, c'est pas nécessairement de laisser des traces. C'est d'être dans l'interprétation puissante du moment. Paula improvise parce que elle danse tous les jours. Elle le dit, voilà, comme Molière le disait, il faut danser tous les jours pour être une personne humaine complète. Avant Nietzsche, bien avant Nietzsche, Molière a dit ça. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est à la fois dans la remémoration de certains solos, mais en même temps dans l'improvisation et dans la joie du quotidien.
Merci Laure Guilbert pour cette riche conversation et cette belle découverte que nous poursuivrons la semaine prochaine en abordant une seconde partie de la vie de Paola Padani dans l'après-guerre en Europe et à Paris. Et on peut prolonger cette conversation en allant voir l'exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme intitulée « Paola Padani, la danse migrante, Hambourg, Tel Aviv, Paris ». C'est jusqu'au 16 novembre 2025, plus de 250 photos et documents. Et je rappelle aussi le titre de votre livre, « Danser avec le Troisième Reich, les danseurs modernes et le nazisme ». C'est chez Complexe, paru en 2000, et cela va reparaître en 2026 aux éditions Perrin. Merci encore, Laure Guilbert.
Merci Marc-Alain Wacklin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.